Alors, si vous voulez tourner avec moi, on va aller dans l'Évangile selon Jean, versets 1 à 18. Évangile selon Saint Jean, 1 à 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Alors, si vous voulez vous asseoir. Alors, j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, le sermon d'aujourd'hui, « Le grand mystère de l'incarnation ». Dans les Écritures, il y a plusieurs grands mystères. L'incarnation, il y a l'élection, il y a la résurrection et plein d'autres. Mais celui de l'incarnation, l'auteur que j'ai utilisé pour parler de ça, lui, il dit que c'est le plus grand mystère du christianisme. Dieu, lui, Dieu le Fils, avec tous les attributs de Dieu, il faudrait les prendre un par un, là, puis toutes les passer un par un, qui sont infinis, s'est incarné dans une chair d'homme. Il a pris une chair d'homme sur lui. Qu'est-ce que ça dit? La parole a été faite chair. La parole, dans le contexte de Jean 1, c'est clair, c'est Jésus-Christ. La parole, donc, c'est le Fils de Dieu qui est venu prendre une chair d'homme pour accomplir l'œuvre de rédemption, notre salut. Et il fallait, pour qu'il puisse le faire, qu'il soit pleinement Dieu dans une personne, que cette personne-là soit pleinement Dieu et que cette personne-là soit aussi pleinement homme. Donc, on dit de Jésus-Christ qu'il est l'homme-Dieu, avec un trait d'union. Dans une seule personne, il y avait deux natures, la nature divine dans toute sa plénitude et aussi la nature humaine. Et il fallait que les deux natures soient là pour qu'ils puissent accomplir l'œuvre de salut. On va voir tantôt pourquoi. On va étudier un petit peu plus en profondeur la doctrine. On va d'abord regarder le fait que Jésus-Christ est pleinement Dieu, était pleinement Dieu lorsqu'il est venu chez le peuple, dans le peuple juif à sa naissance. Il est arrivé chez les Juifs. Et donc, on va regarder le fait que les Écritures, dans ce passage-là, nous enseignent qu'il est pleinement Dieu dans chacune de ses attributs. Alors, si on regarderait les attributs du Père, si on regarderait les attributs du Saint-Esprit, Dieu le Fils avait tous ces attributs-là, donc il était pleinement Dieu. Et il a pris une chair d'homme, donc il a été fait chair, comme le dit le verset 14. Ensuite, on va regarder le fait qu'il est pleinement homme, mais pas un homme ordinaire. Deux choses qui caractérisent, qui fait en sorte qu'il était absolument unique. Le fait qu'il a été conçu, non pas de l'union d'un homme et d'une femme, ce qui est le cas pour chacun d'entre nous, et de tous les hommes qui ont venu sur la terre de tous les temps, mais lui, il a été conçu par l'union du Saint-Esprit. Donc, c'est pas l'union de Joseph et de Marie qui a fait en sorte que Jésus est venu, c'est l'union du Saint-Esprit, comme ça dit dans les Écritures. Et ça, ça le rendait unique, et c'était absolument nécessaire qu'il soit sans péché, un homme sans péché, pour pouvoir accomplir l'œuvre du salut. Et non seulement ça, mais il fallait qu'il ait une autre caractéristique, qu'il n'ait jamais péché. Donc, le fait qu'il ait été conçu par le Saint-Esprit faisait en sorte qu'il ne naissait pas avec une nature pécheresse comme nous. Donc, il était sans péché à cause de sa conception, et durant toute sa vie, il a été sur la terre. On parle de 33 ans de vie. 33 ans de vie sans faire un seul péché. Ni dans sa tête, ni dans ses pensées, ni dans ses actions, ni dans ses omissions, ni dans ses paroles. Imaginez une vie complète sans avoir péché une seule fois. Et il fallait qu'il soit comme ça pour pouvoir accomplir l'œuvre de rédemption, l'œuvre de notre salut. Il fallait qu'il soit pleinement Dieu, il fallait qu'il soit pleinement homme. Satan, quand il a fait tomber l'être Adam et Ève et toute la descendance par la suite, il croyait qu'il n'y avait pas aucun moyen pour que Dieu trouve un moyen pour régler le problème du fait qu'on soit des pécheurs. Et Dieu a conçu la rédemption dans la personne de Christ. Donc, Christ était une personne particulière, unique. Il y a eu juste une personne. Les êtres humains qui l'ont connu quand il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'ils voyaient devant eux? Ils voyaient un homme, et même ses disciples les plus proches de lui ont pris un temps fou à reconnaître qui il était. Il y a un moment donné qui a demandé à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Et Pierre a répondu, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et le Seigneur lui dit, ce n'est pas toi qui... Autrement dit, tu es en train de lui dire, la réponse que tu viens de me donner là, c'est pas toi qui viens de trouver ça, là. C'est le Saint-Esprit, Dieu, qui te l'a révélé. Autrement dit, même s'ils ont été 3 ans à vivre la vie publique de Jésus-Christ, durer 3 ans, ils ont vu faire une multitude de miracles, et à la fin, il n'était même pas encore sûr, même après sa résurrection, ça a pris un temps fou avant qu'il réalise sa véritable identité de l'homme-Dieu. Ça a pris un temps fou. Alors, c'est rien pour dire que ce n'était pas naturel pour l'homme de concevoir un Messie et de concevoir l'œuvre du salut. Donc, on va regarder trois idées. La première, c'est que Jésus-Christ est pleinement Dieu. On va commencer par cette partie-là. Ensuite, on va aller sur Jésus-Christ est pleinement homme. Et il était nécessaire qu'il soit pleinement Dieu et pleinement homme. Et dans le verset 15 à 18, on apprend une chose, c'est que Jésus-Christ est le révélateur de Dieu le Père. Ça dit dans le verset 18 qu'il est venu sur la terre pour faire connaître le Père. Et on va regarder tout ça en détail. C'est vrai que c'est une doctrine qui est passionnante, et qui dépasse notre capacité de comprendre. On parle d'un mystère. C'est quelque chose de très grand. Alors, les deux natures en Christ, ça constitue, selon les Écritures, un profond mystère. Comment c'est possible qu'il y ait deux natures dans la même personne? Une nature qui est pleinement divine, donc il était pleinement Dieu, et il était aussi pleinement homme. Puis, il y avait juste une personne. Il n'était pas juste Dieu, il n'était pas juste homme, il était homme-Dieu. Ça, c'est quelque chose de difficile à saisir. On va aller regarder un verset qui nous parle de cela. Dans Colossiens, au chapitre 2, les versets 2 et 3, et aussi les versets 8 et 9. Colossiens, chapitre 2, versets 2 et 3, et aussi versets 8 et 9. Alors, Colossiens, chapitre 2, versets 2 et 3. « Afin que leur cœur soit consolé et liés étroitement ensemble dans la charité, pour être enrichis d'une parfaite intelligence, pour connaître le mystère de Dieu le Père et de Christ. » Il est en train de parler des chrétiens. Là. Il dit qu'on est unis ensemble dans l'amour, dans la charité, et qu'on est enrichi d'une parfaite intelligence pour connaître le mystère de Dieu et de Christ. Donc, Dieu lui-même et Christ aussi est un mystère qu'on en saisit une partie, on en comprend une partie, mais on ne comprendra jamais Dieu parfaitement. Jamais, 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 jamais. Même quand on va être rendu au ciel, on va continuer à découvrir qui il est, et ça va être le travail et le plaisir de toute une éternité. C'est presque pas croyable quand on pense à ça. Et tellement grand, et tellement puissant, tellement amour, et tellement miséricorde, et tellement patience, et omniscient, omniprésent, et il faudra penser tous ses attributs, sagesse, etc. Un seul attribut, on ne sera jamais capable d'aller au fond. On va découvrir l'amour de Dieu, mais on n'aura jamais fini de découvrir dans la perfection jusqu'où Dieu nous a aimés. Il continue de nous aimer et il va continuer de nous aimer pour l'éternité. On n'aura jamais fini de découvrir chacun de ses attributs parce que, étant infini, on n'y arrivera jamais. Et c'est quelque chose de vraiment fantastique. Verset 3 de Colossiens 2, « En qui, » là il parle de Christ, « En qui sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. » On parle de la personne de Christ et on dit qu'en lui sont concentrés, sont renfermés tous les trésors. Quand on parle d'un trésor, ici, ils le mettent au pluriel, les trésors de la sagesse et de la science. Tout est en Jésus-Christ. Et versets 8 et 9, « Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par de vaines tromperies, selon la tradition des hommes, selon les rudiments du monde, et non selon Christ. » Car en lui, il parle de Christ, là, car en lui, en Jésus-Christ, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. On dit qu'il était pleinement Dieu, et ici le verset vient le confirmer, car en lui, en Christ, toute la plénitude de la divinité. Faudrait, pour bien comprendre un passage comme celui-là, il faudrait s'arrêter, aller dans un livre de théologie, sortir tous les attributs de Dieu, comprendre qu'ils sont infinis, et Jésus avait tous les attributs de Dieu, à l'infini. Donc, il était pleinement Dieu. Et avec un arrangement qu'il a pris avec le Père, il a volontairement accepté de venir sur cette terre pour régler le problème du péché et sauver certains hommes, comme on l'a vu dans d'autres leçons. Alors, c'est très important. Toute la plénitude de la divinité habite en lui, corporellement. Alors, ici, on a un verset qui nous parle des deux aspects. Toute la plénitude de la divinité, puis on parle habitait en lui, corporellement. Dans son corps, Jésus avait Dieu lui-même dans toute sa plénitude pour venir faire l'œuvre du salut. Alors, on va regarder la doctrine que Jésus est et était lors de sa première venue. On parle de première et deuxième venue. Hein. Première venue, il est venu, il a vécu sur sa terre, il s'est présenté aux disciples, il a parlé de son œuvre de salut et il a fait une multitude de choses. À un moment donné, on a décidé qu'on l'a crucifié. Après ça, il est ressuscité. Après ça, il est monté au ciel. Sa première venue est réglée là. Et là, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut, s'est répandue sur toute la terre. Ça a commencé par l'Asie, ensuite ça est venu en Europe, c'est venu en Amérique. Partout, l'œuvre du salut s'est répandue. Alors, ça, lors de sa première venue, et on dit qu'il va revenir, la deuxième venue de Jésus. On attend, comme croyant, que Jésus revienne pour le jugement dernier. Alors, mais quand il est venu la première fois, il était pleinement Dieu et aussi pleinement homme. On va regarder dans le développement du sermon, on pourrait se poser la question, pourquoi il était nécessaire que Jésus soit pleinement homme Et pourquoi il était nécessaire que Jésus soit pleinement Dieu, uni dans une seule personne, pour qu'il puisse accomplir l'œuvre du salut de nos âmes? Poser comme ça, là, comme question, là, à brûle pour point, là, des fois, j'avoue qu'on arrête la difficulté. C'est juste quand on met les versets ensemble qu'on se rend compte que c'était une nécessité. Sinon, ça n'aurait pas été une nécessité, Dieu ne l'aurait pas fait. Alors, la personne de Jésus-Christ, elle a une caractéristique. C'est qu'elle est unique, absolument unique. Alors, lorsqu'il est venu sur cette terre, les Juifs, là, qui l'ont vu arriver, premièrement, il y avait les Écritures, il aurait dû savoir qu'il était pour venir au monde à Bethléem. Et il savait, parce que quand on lui a posé les questions, il était capable de dire, oui, il va venir au monde à Bethléem. Mais quand il est venu, comment ça qu'ils ne l'ont pas reconnu? Ils ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas porté attention aux faits. Alors lui, quand il est venu, eux, les Juifs, ont cru que c'était un homme comme tout le monde. Et là, c'est ça qui créait des problèmes pour les autres, parce qu'ils voyaient faire des affaires qu'un homme n'est pas capable de faire. Moi, si vous m'emmenez un aveugle en face, puis vous me dites « guéris-le », je vais dire « j'aimerais bien, je ne suis pas capable, je ne fais pas ce qu'il faut ». Il viendrait un paralytique, je dirais « Marcel, guéris-le ». J'aimerais bien, pas capable. Il voyait faire des choses à Jésus que ça prenait une nature divine pour être capable de l'accomplir. Et il était vraiment émerveillé, mais il passait le temps à se dire, c'est juste un homme, même que les pharisiens étaient jaloux, et ils pensaient que s'il faisait des miracles, c'était à cause de Satan, qu'il faisait les miracles à cause du diable. Alors, toute sa vie a été une incompréhension. Les gens ne comprenaient pas l'idée que dans Jésus, il y avait deux natures, la nature divine et la nature. Et la théologie, après les siècles, ça a pris des siècles que tout ça se développe pour qu'on comprenne aujourd'hui ces choses-là. Alors, il avait entendu ses enseignements et il se rendait compte qu'il y avait une autorité dans l'enseignement de Jésus qui était exceptionnelle, qui était... Il voyait qu'il enseignait des choses que eux, leurs enseignants, n'enseignaient pas et il y avait de la difficulté. Et aussi, ils ont vu une multitude de miracles que Jésus a fait. Marcher sur les eaux, calmer des tempêtes, guérir des aveugles. Et on pourrait multiplier la liste des miracles que Jésus a fait est énorme. Et plus que ça, ça dit dans la fin de l'évangile de Jean, que si on voudrait écrire tout ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur la terre, le monde entier ne suffirait pas pour qu'on puisse contenir tous les livres qu'on pourrait écrire. Imaginez, on en sait un peu, mais la Bible nous dit qu'il y en a beaucoup plus que ce qui a été écrit. Alors, quand Jésus est venu sur la terre, il a fait une multitude de choses extraordinaires. Ses disciples les plus proches, ceux qui ont travaillé avec lui, qui ont voyagé avec lui pendant 3 ans, ils lui ont vu faire une multitude de choses, que ça prenait Dieu pour faire ça. Comment ça se fait qu'il était si lent à comprendre que c'était Dieu qui habitait une chair d'homme? L'apôtre Pierre reçoit une révélation de Dieu le Père sur la véritable identité de Jésus-Christ. On l'a dans Matthieu, au chapitre 16, versets 13 à 17. Et Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogeait ses disciples, disant, « Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, et les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre, prenant la parole, dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répondit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Voyez-vous, il y a eu un éclair de génie. Mais le Seigneur est en train de lui rappeler, ton éclair de génie, il ne faut pas que tu penses qu'elle vient de toi. C'est Dieu, le Père, qui te révèle qui Jésus est. Le Christ, c'était le Messie annoncé depuis Genèse. On est dans Genèse, là. On fait longtemps qu'on parle du Messie annoncé. Mais là, quand on parle de l'incarnation, c'est le moment où le Père vient accomplir dans la personne de Jésus-Christ, permettre que Dieu s'incarne dans une chair d'homme pour qu'il puisse accomplir l'œuvre de rédemption, l'œuvre du salut de nos âmes. Il fallait qu'il y ait un corps, il fallait qu'il soit un homme sans péché, sans faute, sans la faute originelle. Il fallait qu'il soit aussi Dieu. On va voir les raisons plus tard un peu, mais c'est intéressant. Donc, les versets 1 et 2 de Jean 1 nous rappellent quelque chose. C'est que Jésus était préexistant avant le fait qu'il devienne, qu'il s'incarne dans une chair d'homme. Préexistant, ça veut dire quoi? Avant que Jésus vienne et s'incarne dans la chair du bébé qui est venu au monde, là, il existait de toute éternité. C'est ça que c'est en train de dire dans Jean, chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement était la parole. Dans le contexte, on va aller voir différents versets où on nous parle que la parole, c'est clair, c'est Jésus-Christ. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Les témoins de Jéhovah, ils n'aiment vraiment pas ce passage-là. Ils tordent dans tous les sens pour dire que c'est pas ça que ça veut dire. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, avant que Jésus s'incarne dans une chair d'homme, il existait en forme de Dieu dans toute éternité avec chacun des attributs de divin. Donc, Jésus existait éternellement. Quand il est venu sur la terre, Jésus était l'éternel aussi. Il existait avant qu'il s'incarne. Donc, il existait éternellement avec Dieu le Père et aussi avec Dieu le Saint-Esprit, parce que les trois personnes de la Trinité ont toujours existé de toute éternité. Donc, l'identité de la parole ne laisse aucun doute, c'est la personne de Jésus-Christ. On va le voir quelques passages qui nous démontrent que si on se pose la question dans Jean 1, versets 1 et 2, quand on dit la parole, c'est qui ça? On va le voir d'autres versets qui vont nous démontrer. 1 Jean, chapitre 1, et versets 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, c'est Jean qui parle, l'apôtre Jean. Il dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Tu es en train de parler de la parole qui s'est manifestée par l'intermédiaire de la personne de Christ. Regardez bien les mots qui sont utilisés par l'apôtre Jean. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous ayez communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. 1 Jean, chapitre 5, verset 7, dans la version Osterval, où on utilise car il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Et ces trois-là sont un. C'est en train de parler de l'unité de Dieu. Trois personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, sont nommées ici. Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Dieu le Père, la parole qui est Dieu le Fils, et le Saint-Esprit, et ces trois-là sont un. Alors, c'est très important. Hébreux, chapitre 1, versets 1 à 3. Dieu, ayant autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises et de diverses manières, comment il l'avait fait avant que Jésus vienne, comment il avait parlé? Par les prophètes. Ayant parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes, Et là, il est en train de dire que nous a parlé en ces derniers temps par son Fils. Dieu, dans les temps de la fin, il a décidé de ne plus parler à son peuple par les prophètes, mais par le prophète avec un P majuscule, Jésus. Il dit par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde. Il est en train de nous dire que Christ est aussi le Créateur. Il a fait le monde par Christ, il s'est servi de Christ, et qui, étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa personne, si vous allez étudier Hébreu, chapitre 1, on va identifier que la splendeur de la gloire et l'empreinte de sa personne, autrement dit, Jésus était une copie conforme de Dieu le Père. Copie conforme. Quand on parle d'une empreinte, là, de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante. On ne s'arrête pas des fois à penser à ça. Jésus est tellement puissant que le monde est maintenu en existence juste par sa parole. Ça prend-tu de la puissance, ça? Le monde dans son entièreté, tout l'univers, c'est Jésus qui la maintient en existence par sa parole puissante. Ayant opéré par lui-même la purification de nos péchés, s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts. Et un dernier pour nous montrer que vraiment, quand on parle de la parole dans Jean 1:1 et Jean 1:2, on parle de Jésus-Christ. Apocalypse, chapitre 19, versets 11 à 13. Et je vis ensuite le ciel ouvert, et voici un cheval blanc. Et celui qui était monté dessus s'appelait le fidèle et le véritable, qui juge et qui combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Il avait sur sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom que personne ne connaît que lui-même. Il était vêtu d'un manteau teint de sang et son nom s'appelle la parole de Dieu. Alors, on n'a pas à se poser des questions comment interpréter Jean 1:1, Jean 1:2. La parole dans le contexte, c'était Jésus-Christ et il était pleinement Dieu, comme ça dit dans le texte. Maintenant, il y a autre chose que si on dit qu'il est Dieu, donc à quelque part, il fait le Créateur, parce que Dieu est le Créateur de toutes choses. Dans le verset 3 de Jean 1, ça dit, « Toutes choses, on parle de l'univers, les planètes, les étoiles, ont été faites par elle, la parole. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. » Ça, c'est tellement glorieux. Juste ce verset-là, on pourrait méditer. Il y a tellement de choses que Dieu a créées. Il a créé les fleurs, il a créé les poissons, les insectes, les oiseaux, les planètes, les étoiles. L'autre jour, on a parlé du nombre d'étoiles. 100 milliards d'étoiles dans le sol de la galaxie, la Voie lactée. 100 milliards! Même quand j'ai fait écrire les gens, ils n'étaient même pas capables d'écrire 100 milliards. Une galaxie. Il y a 100 milliards de galaxies, avec chacune 100 milliards d'étoiles. Et c'est lui qui a créé ça, Jésus. Il était le Fils de Dieu, le Créateur. Quand il est venu sur la terre, il faut se rendre compte de la grandeur de la personne qui venait s'humilier comme roi de l'univers pour rentrer dans une chair d'homme puis pour avoir l'air d'un homme aux yeux des hommes. Le fait qu'il ait participé à la création avec le Père, pensez-vous que ça le rend qualifié pour son œuvre de rédemption, pour son œuvre de salut? S'il était capable de créer ça, pensez-vous que quand il est venu sur la terre, que notre salut était pour manquer son coup, comme on dit? Hein? Pour dire la question, c'est y répondre, quand on connaît les Écritures pour le moindrement. Colossiens, chapitre 1, versets 16 et 17. Et dans Colossiens, le contexte nous parle de la personne de Jésus-Christ. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste par lui. Il faut se rendre compte là, c'était ce personnage glorieux-là qui a décidé de venir sur la terre et de s'incarner dans une chair d'homme. Quelle humiliation pour un Dieu d'une telle grandeur d'être perçu par les hommes comme étant un homme pécheur comme les autres. Quand on pense à ça, là, c'est... le mystère de l'incarnation, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, dans le verset 4 et 5, il nous dit qu'il est Dieu et que, étant Dieu, Jésus, il était aussi à l'origine de la vie et de la lumière. Quand on dit la vie, Jésus, ça, je pense que c'est dans Jean 14, ça dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Donc, quand il dit qu'il est la vie, il est la vie, de tout ce qui a forme de vie, là, c'est Jésus qui la maintient. Mais c'est plus que ça, c'est la vie spirituelle aussi. Parce qu'avant qu'on soit né de nouveau, avant que Dieu vienne nous rencontrer dans la grâce, il vienne nous faire comprendre notre état de perdition de pécheur, perdu, condamné à l'enfer, il fallait qu'on comprenne qu'on était des pécheurs et le Seigneur l'a fait. Nous a fait rencontrer notre état de perdition, notre état de... À un moment donné, dans notre salut, on s'est rendu compte qu'on était des pécheurs, qu'on était condamnés, puis qu'on s'en allait en enfer, et que si on ne recevait pas la grâce de Dieu, on s'en allait en enfer pour l'éternité. On a tellement de difficultés à saisir. C'est une vérité d'une profondeur. Que si quelqu'un n'est pas réconcilié avec Dieu et qu'il décède dans son état de pécheur, il va aller dans l'enfer pour l'éternité. Alors, il est en train de nous dire ici que Jésus est la vie, non seulement la vie, toutes les formes de vie physique, mais il est aussi la vie spirituelle. Il est la vie et il la donne à qui il veut, parce que le Père lui a donné certaines armes et il la donne à qui il veut. Non seulement il est la vie, mais il est la lumière. Pourquoi il est venu dans le monde? Puis il dit, quand il est venu dans le monde, tout ce qu'il trouvait sur la terre, c'était juste des ténèbres. Tu penses qu'il faisait noir quand il est venu? Pas des ténèbres dans ce sens-là, c'était des ténèbres. Autrement dit, le péché régnait en maître sur la terre et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il était la lumière, c'est lui qui nous a apporté la lumière. Dans le verset 4, ça dit, « En elle, en parlant de la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière a lui dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. » Combien il était dans la chambre haute après que Jésus est parti? 120. Imaginez-vous sur le nombre de personnes qui avaient sa terre, il y en avait juste 120 qui étaient réveillés. Parce qu'il avait voulu que ça soit comme ça. Mais il reste que les Juifs qui attendaient le Messie depuis des milliers d'années, quand il est venu, n'ont pas su le reconnaître. Pourtant, ils savaient qu'il était pour venir au monde à Bethléem. Et il y avait toutes sortes d'indices qu'il aurait dû allumer. Ça démontre qu'il était comme vraiment endormi. Alors, la vie et la lumière, qu'elle soit naturelle, la vie naturelle, et la lumière, qu'elle soit naturelle ou spirituelle, la vie sur les deux formes, naturelle et spirituelle, la lumière sur les deux formes, naturelle et spirituelle, tire son origine de Jésus-Christ. La lumière spirituelle s'est manifestée aux hommes de plusieurs manières. Ça, c'est intéressant. Comment on sait que Dieu existe? On l'a regardé un petit peu l'autre jour dans notre cours sur le catéchisme. Par la création, par la conscience et par la révélation de l'Évangile. Trois choses qui nous disent que Jésus existe, que Dieu existe, que le péché existe et que si on ne fait pas attention, on va se ramasser à mauvaise place. Donc, un des instruments que Dieu a fait et qui rend les hommes coupables de ne pas reconnaître que Dieu existe uniquement par la création. Les hommes, en regardant la terre, les fleurs, les animaux, les astres, les planètes, les étoiles, c'est assez pour les condamner, comme ça dit dans Romains. On va les lire tantôt. Un autre moyen que Dieu a utilisé pour montrer qu'il existait, c'est la conscience. Dans les pays qui n'ont jamais entendu l'Évangile de leur vie, disons que certains coins de la Chine ou de l'Afrique, ou n'importe quel pays, qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, selon vous, s'il décède, il s'en va en enfer?
Oui.
Oui! Il s'en va en enfer parce que la Bible dit que tu avais la création pour te démontrer que Dieu existait, mais tu ne l'as pas reconnu. En plus, tu avais ta conscience qui est un moyen que Dieu t'a donné pour être capable de reconnaître ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu dis est bon ou pas bon. Donc, tu avais ta conscience qui était un instrument pour t'indiquer l'existence de Dieu et tu as fait comme si tu ne l'avais pas vu. Et il y a un autre moyen qui rend encore plus ceux des contemporains de l'Amérique du Nord, du Québec, des États-Unis, tous ceux qui ont eu une Bible dans les mains ou qui en ont entendu parler et qui n'ont pas reçu la grâce, n'ont pas reçu la lumière, n'ont pas répondu à l'appel de se repentir et de croire en Jésus pour le salut, ben quelque part, ils ont un problème sérieux. La corruption des Juifs et des hommes à l'époque que Jésus est venu était si grande que Christ n'a pas été reçu et n'a pas été reconnu par eux lors de sa première venue, à l'exception de quelques disciples qui étaient ses élus. On va aller regarder quelques versets qui nous parlent que la création comme telle, le fait qu'on regarde on se lève les yeux le soir, on se couche dans l'herbe, hein? le soir quand le ciel est clair, qu'est-ce qu'on voit? Une multitude d'étoiles. Juste ça, là, juste le fait qu'on se promène, qu'on voit des poissons, on voit des oiseaux, on voit des fleurs, on voit des insectes. Tout ça, c'est un indice que Dieu existe. Ça nous dit dans Romains, chapitre 1, le verset 19 et 20, que la création est un témoignage de l'existence de Dieu. C'est comme si la création elle-même criait « J'existe comme Dieu ». Et les hommes font comme s'il n'existait pas. Ils veulent qu'il n'existe pas, mais il existe. Ça dit dans Romains 1, versets 19 et 20, « Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. » Manifester, ça veut dire faire connaître avec certitude. Manifester, quand il y a une manifestation dans la rue, on a-tu connaissance ou on n'a pas connaissance? C'est... Manifester, ça veut dire rendre visible, rendre perceptible. Alors, ça dit, « Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. » C'est Dieu qui a permis que la création crie « J'existe ». Comme si Dieu criait par sa création son existence. Mais ça dit que les hommes retiennent la vérité captive, ça veut dire qu'ils font comme s'ils ne comprenaient pas. Mais tous les hommes comprennent ça. Et dans le verset 20, « En effet, les perfections invisibles de Dieu. » De quoi on parle quand on parle des perfections invisibles de Dieu? On parle de ses attributs, sa bonté, sa sagesse, son amour, sa miséricorde. Tous les attributs de Dieu sont visibles par sa création. À quelque part, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Autrement dit, la création parle tellement fort que ça devrait te convaincre juste ça en soi. Depuis la création du monde, quand on les considère dans son ouvrage, de sorte qu'ils sont inexcusables. Juste la création condamne l'homme à ne pas reconnaître que Dieu existe. Maintenant, il y avait un autre moyen que je vous ai dit tantôt, c'est celui de la conscience qui, elle aussi, rend témoignage de Dieu. Romains 2, versets 14 à 16. Or, quand les gentils, quand on parle des gentils, c'est, on ne parle pas des gens qui sont fins, ceux qui ne sont pas fins. Là. On parle des gentils, c'est les gens qui ne, qui les non-convertis de l'époque. On les appelait les gentils. Or, quand les gentils, qui n'ont point la loi, font naturellement les choses de la loi, n'ayant point la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur. Leur conscience leur rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent. Ceci paraîtra au jour auquel Dieu jugera les actions secrètes des hommes par Jésus-Christ, selon mon évangile. Il est en train de dire que les hommes n'auront aucune excuse parce que Dieu va leur montrer que dans leur conscience, quand ils faisaient quelque chose de mal, qui disaient quelque chose de mal, ou qui tout ce qui est mal, ta conscience, Dieu te l'a placé en toi pour que tu sois capable de distinguer le bien et le mal. Donc, suite là, la création et ta conscience, ça serait suffisant pour te condamner, même si tu n'as jamais entendu l'évangile. Mais imaginez si tu as la création, puis en plus tu avais la conscience, puis en plus tu as entendu l'évangile, on t'a donné des traités, on t'en a parlé, tu as entendu des sermons d'un bord puis de l'autre, puis tu n'es pas venu au Seigneur, tu n'as pas imploré sa miséricorde pour qu'il te sauve, ça te rend triplement coupable, à quelque part. Maintenant, on va terminer par le premier point, par la question qu'on s'était dit. Pourquoi était-il nécessaire que Jésus-Christ soit pleinement Dieu? Seriez-vous capable de répondre à cette question-là si je vous donne un petit cahier et vous me dites que pourquoi il était nécessaire que Jésus-Christ soit Dieu? Alors voici, je vais y aller avec la facilité. J'ai pris la réponse du théologien Wayne Grudem, qui a théologie systématique. Il y a un chapitre sur ça. Et c'est pas très long. Alors, je vais vous lire ce que lui dit. Pourquoi c'est nécessaire que Jésus-Christ, c'était nécessaire que Jésus-Christ soit pleinement Dieu, et c'est encore nécessaire parce qu'il est encore Dieu, bien entendu. Il dit, il convient ici de reconnaître qu'il est très important d'insister aussi sur la pleine divinité du Christ. Non seulement parce qu'elle est clairement enseignée dans l'Écriture, mais aussi parce que seul quelqu'un qui est un Dieu infini pouvait porter les péchés de tous ceux qui croient en lui. Une créature limitée aurait été incapable de subir une telle peine. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il fallait que la divinité soit à l'intérieur de la personne de Christ dans son humanité pour être capable de subir le châtiment et le châtiment de tous les élus de toutes les époques à leur place. S'il n'y avait pas eu la nature divine pour être capable de soutenir sa nature humaine pendant que Dieu jugeait nos péchés en lui, il n'y aurait pas eu de salut. C'est une des raisons pour lesquelles il fallait qu'il soit Dieu. La deuxième, c'est que le salut vient de l'Éternel et tout le passage de l'Écriture tend à montrer qu'aucun être humain, aucune créature n'aurait jamais pu sauver l'homme, Dieu seul pouvait le faire. Si le salut vient de l'Éternel, il fallait que le salut vienne de l'Éternel, donc Jésus était l'Éternel, donc quelque part le salut vient de l'Éternel. Et la troisième raison, seul quelqu'un qui était vraiment et pleinement Dieu pouvait servir de médiateur entre Dieu et l'homme, comme on dit dans 1 Timothée 2,5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, mais il fallait qu'il soit Dieu pour être médiateur. À la fois pour nous ramener à Dieu et pour nous le révéler plus clairement. Par conséquent, si Jésus n'est pas pleinement Dieu, nous ne sommes pas sauvés et le christianisme s'écroule. Voyez-vous, quand il y a un témoin de Jéhovah qui passe, puis qui vous dit que Jésus n'est pas Dieu, des fois ça a l'air innocent comme ça, là. Il y a plein de monde qui embarque dans ce panneau-là. Mais ça dit ici, puis je le crois à 100%, que si Jésus n'était pas Dieu, il n'y a pas de salut, tout s'écroule, on est tous condamnés, on s'en va tout en enfer, toute la gang. Et ce n'est pas par un hasard si, à travers l'histoire, les groupes qui ont rejeté la pleine divinité du Christ ne sont pas restés longtemps dans le giron de la foi chrétienne, mais ont rapidement dérivé vers des religions comme l'unitarisme aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un paquet de groupes qui disent qu'il y a juste un Dieu, puis il n'est pas en trois personnes, il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. L'unitarisme, c'est répandu aux États-Unis. C'est des choses qu'on vit aujourd'hui et ailleurs. Ça se dit dans 1 Jean 2, verset 23. Que tout homme qui nie que Jésus est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne le Christ, mais s'en écarte, n'a pas de communion avec Dieu. Celui qui reste attaché à cet enseignement est uni au Père comme au Fils. Très intéressant, c'est dans Théologie systématique, Wayne Grudem, page 608. Très intéressant parce qu'il résume les raisons pour lesquelles il fallait que Jésus soit pleinement Dieu pour que l'œuvre du salut dont nous avons tous bénéficié puisse s'accomplir, sinon, s'il n'avait pas été pleinement Dieu. Alors, quand un témoin de Jéhovah se présente à votre porte et qu'il vous dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est une doctrine de démon. Parce que sans la divinité de Jésus, si Jésus n'était pas Dieu, il n'a pas de salut. Oublie ça. Alors, eux, ils disent que Jésus était un ange, qu'il n'était pas Dieu. Alors, ça ne se peut pas qu'un témoin de Jéhovah soit sauvé. S'il maintient sa foi jusqu'à son corps. Plus simple que ça. Alors, on va arrêter là pour aujourd'hui. On a fait juste le premier point. On a démontré que Jésus était pleinement Dieu et que c'était nécessaire que cette divinité-là prenne une chair d'homme pour que l'homme-Dieu puisse accomplir les deux parties du salut. Il fallait qu'il soit pleinement Dieu, il fallait qu'il soit pleinement homme et il fallait qu'il soit uni dans une seule personne. Alors, la prochaine fois, on va regarder Jésus-Christ est pleinement homme et on va regarder les conséquences de tout ça dans la dernière leçon. Alors, on va arrêter là aujourd'hui.